Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Christian Jean Dicazot. Bonsoir, Michel Pétiot-Létang. Nous sommes là pour parler d'un livre de Christian Jean Dicazot, mais c'est un livre édité par Michel Pétiot-Létang. Et à ce titre, donc, visiblement, ce n'est pas toujours le cas. Les éditeurs et les écrivains ont quelquefois des relations un peu compliquées. Mais je crois que vous vous entendez bien, n'est-ce pas, tous les deux?
Oui, oui, tout à fait.
Alors, Christian, d'abord, vous voulez dire bonjour, merci aux gens. Vous m'avez dit que vous vouliez remercier le public. Alors, oui, allez, dites merci.
Je vous suis avec beaucoup d'attention. Alors, je voudrais d'abord dire bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, chers amis. Je suis ravi, il y a beaucoup de monde, et puis voilà, je suis très, très heureux. Et puis je sens que le public a du talent, alors ça va nous servir beaucoup tout à l'heure, ça, j'imagine. Voilà, donc j'ai dit bonjour, Jean-Marie.
Alors, maintenant je vous pose la première question.
Allons-y.
C'est un peu la même, c'est-à-dire qu'on vous connaît comme commissaire-priseur, mais on sait aussi que vous écrivez des poèmes. Et puis cet ouvrage qui contient quelques poèmes, mais aussi beaucoup de prose, on en reparlera. Mais alors comment devient-on commissaire-priseur? C'est-à-dire que il y a une page au début ou deux où vous expliquez que vous aviez la vocation du journalisme, la vocation de l'écriture, la vocation de la peinture. Mais et puis alors vous devenez commissaire-priseur. Comment ça se passe?
Vous avez remarqué, j'étais entouré de vocations.
Oui.
C'est-à-dire j'étais entouré de certainement des feux qui se sont penchés sur mon berceau. Mais en fin de compte, tout ça, ça s'explique. C'est un parcours. C'est un parcours. Ce parcours commence comment? Il commence
l'école.
Il va commencer par la peinture. La peinture. J'ai commencé à peindre grâce à un missionnaire à Madagascar qui m'a initié à la peinture. Donc tout de suite la peinture. Ensuite, je suis passé, quand je suis rentré en France, je suis allé dans une manécanterie chez Petit Chanteur à la Croix de Bois. Et ensuite, je me suis retrouvé ayant la vocation de journaliste. Et donc, c'était à Angoulême à l'époque, avec Sud-Ouest ou la Charente Libre plutôt. Et j'écrivais des articles, je commentais des expositions. Et j'avais envie donc vraiment de devenir journaliste. Et puis les événements familiaux, etc. Et puis grâce à ma peinture, grâce à mes commentaires sur les expositions, j'ai rencontré des galeristes, j'ai rencontré des collectionneurs et j'ai rencontré des commissaires-priseurs. Et tout de suite, cette profession de commissaire-priseur m'a tendu la main et je me suis laissé prendre. Et voilà, donc de jeune stagiaire, je suis passé 40 ans après, je suis toujours là. Enfin, disons que j'ai pris ma retraite, mais je ne suis pas en retrait. Voilà, ça c'est une bonne chose. Mais je continue donc à m'occuper à ma façon de cette profession.
Vous êtes en retrait et vous observez comme certains hommes politiques.
Oui, c'est plus facile peut-être.
Bien. Alors... deux questions maintenant sur le titre et le sous-titre. Le commissaire-priseur dans tous ses états. Ah, ça, vous avez un peu piqué le titre à quelqu'un, n'est-ce pas? Ce titre, vous l'avez un peu dérobé à quelqu'un.
Non.
Si. Alors, attendez, vous l'avouez vous-même. Non, vous dites que vous êtes tombé.
Non.
Vous êtes tombé sur un livre de Maurice Reims, commissaire-priseur célèbre.
Oui. Que j'ai bien connu d'ailleurs. Oui. Que moi j'ai bien aussi. Connu, et il disait pas le commissaire-priseur tous ses états. Il disait dans tous mes états.
Dans tous mes états.
Ah, pareil.
Ah non, c'est pas
il y a une nuance dans la langue française, et je sais m'en servir en langue française. Alors, ne pensez pas, j'ai l'impression, Jean-Marie, vous pensez que je manque de modestie. Non, je manque pas de modestie. Enfin, bien que de temps en temps, il m'arrive d'être un peu cabot.
C'est au public d'en décider,
le commissaire-priseur dans tous ses états, ça correspond parfaitement à mon état, c'est-à-dire que j'ai été commissaire-priseur. Dans mon bouquin, je parle des voyages, des expertises faites à l'étranger, Je parle de mes voyages à cheval dans, à l'étranger, etc., où on faisait des raids extrêmes. C'était vraiment dans tous mes états. Et ensuite, je me suis retrouvé maintenant, comment dirais-je, beaucoup plus tranquille, puisque je suis rentré à l'Académie des sciences belles-lettres de Bordeaux. Ah, pour moi, c'est un événement important. Et donc, je dis que le commissaire-priseur est dans tous ses états. Le commissaire-priseur rentre à l'Académie. C'est un état nouveau, vous ne croyez pas ?
Vous avez l'air de dire que c'est un état tranquille et qu'on somnole à l'Académie.
Bon. Ah non.
C'est pas du tout.
Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non.
C'est pas vrai.
J'ai parlé de tranquillité, pas de somnolence.
Et alors, est-ce que vous pouvez me parler du sous-titre « Le feu des enchères qui purifie tout ». En quoi les enchères, et qui sont quand même liées à l'argent, en quoi les enchères peuvent-elles avoir une fonction purificatrice ?
Alors ça, c'est une expression que j'ai prise à un très vieux correspondant, très âgé, qui n'est plus là aujourd'hui, et qui me disait, quand on allait en expertise, il me disait, Jean-Di Cazot, les enchères purifient tout. Et il avait un peu raison, et j'ai pris cette expression que j'ai gardée longtemps dans ma tête. C'est la raison pour laquelle je l'ai indiqué en sous-titre. Le feu des enchères purifie tout, c'est parce que dans une vente aux enchères, il y a ce qu'on appelle la transparence. Les choses sont vendues, elles sont vendues au meilleur prix. Le prix, le dernier prix qui est offert, qui est adjugé, correspond à au véritable prix, normalement, doit correspondre au prix de l'objet. Donc, quand je dis que le feu des enchères purifie tout, c'est qu'il y a une transparence de l'enchère, une transparence de l'origine de l'objet. Lorsque l'objet vient dans une étude de commissaire-priseur, il est évident qu'on demande l'identité, les cartes d'identité, les passeports, etc., aux gens qui vendent. Donc il y a déjà une sorte de purification, c'est-à-dire on vérifie l'état civil du vendeur. Ensuite, ça passe aux enchères d'une manière normale. Et ensuite, avant de passer aux enchères, la vente est annoncée. Elle est annoncée suivant l'importance de la vente, publicité importante, catalogue, etc. Puis aujourd'hui, Internet, enfin bref. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur Internet, si vous y allez de temps en temps, certainement que certains d'entre vous ici y vont souvent, tous les objets sont photographiés. Ils sont décrits, ils sont estimés. Ça, c'est ce qu'on appelle une véritable, c'est la clarté même. Donc c'est pour ça que j'ai repris ce terme-là en disant que le feu des enchères purifiait tout. Enfin, c'est mon avis. J'espère que vous partagez le bon avis d'ailleurs.
On s'imagine qu'un commissaire-priseur vend des consoles Louis XV, des commodes bordelaises, des armoires bordelaises, mais pas seulement. Et en lisant ce livre, on s'aperçoit que vous avez vendu des bateaux, des trains, et des avions, non, peut-être pas.
Expertiser des avions.
Expertiser.
On les compte. Je ne les ai pas essayés, d'ailleurs. Hein.
Alors, est-ce que vous éprouviez le même plaisir à vendre des bateaux que celui que vous avez dû ressentir à vendre de beaux meubles en acajou, anciens, bordelais parfois?
Alors, si vous voulez, c'est pour ça que le commissaire-priseur dans tous ses états prend toute sa valeur, parce que il y a des moments intenses lorsque, j'en parle dans mon livre, lorsque vous découvrez un objet, cet objet qui traînait dans une armoire à balai, et puis l'héritière vous dit je fais un inventaire dans un appartement, et puis le notaire est là, tient la minute, je fais donc mon inventaire, et puis je dis ben voilà, les opérations sont terminées. Et attendez, je n'ai pas été voir dans ce placard. Il y a, l'héritière me dit, mais non, mais Jean-Di Cazot, ce n'est pas la peine. Il y a un vase, mais ce vase, il ne vaut pas grand-chose. Je veux l'offrir à ma femme de ménage. Et alors, je m'approche, je prends le vase, je l'examine, les yeux deviennent de plus en plus ronds. Et je lui dis, madame, vous savez, vous avez là un très beau vase. C'est un vase qui porte des initiales RB, c'est-à-dire René Buteau, qui, comme vous le savez, vous, les Bordelais, est un des plus grands céramistes contemporains, qui toutes ses œuvres ont été exposées ou sont exposées aux États-Unis, en France et partout, etc. Cet homme a vécu une centenaire, c'était un homme admirable. Et il faisait des œuvres fantastiques. Et je lui dis, madame, voilà, ce vase vaut plusieurs milliers, on va dire, je ne dis pas le chiffre, ce n'est pas la peine, plusieurs milliers d'euros. Elle m'a dit, vous n'y pensez pas? J'ai dit, si, je pense. Ah bon? Donc, évidemment, elle a changé tout de suite son fusil d'épaule, si je puis dire. Et puis, elle
la
m'a...
La femme de ménage? Non.
La femme de ménage n'a rien vu passer. Donc, elle m'a confié le vase qui a fait un prix. À l'époque, on commençait à vendre des buteaux et un prix astronomique. Et voilà. Donc, cette héritière est devenue béate après. Vous voyez, elle était très heureuse. Donc, là, c'est une joie intense que d'abord de trouver, d'être un inventeur, de trouver l'objet et de le vendre dans les meilleures conditions. Ça, c'est un grand moment. En revanche, pourquoi ne pas avoir les mêmes impressions lorsque vous vendez des bateaux? Alors, vous parlez des bateaux. Bon, c'est une vente unique que nous avons réalisée avec mes associés. Sahuquet et Royer, à l'époque, à Cannes, on a vendu 24 yachts. Mais on a vendu 24 yachts en 3 heures. Vous rendez compte? Mais des yachts qui ont fait des prix astronomiques. Alors, là où il y a une sorte d'intensité dans l'action, c'est que avant, nous avions dit au tribunal, l'offre que vous avez entre les mains est insuffisante, nous, on pense faire mieux en vente publique. Et on a bien pensé, heureusement, parce que, bon, enfin bref, ça s'est très très bien passé. Et là, c'est aussi une joie intense, c'est-à-dire une joie intense d'être un professionnel.
Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous rencontrez toutes sortes de personnes, et notamment des collectionneurs. Et certains sont très originaux. Et alors, un collectionneur qui a passé sa vie à essayer de réunir un certain nombre d'objets appartenant à la même famille, ou de qualité égale. Alors, un collectionneur, s'il meurt ou s'il désire vendre sa collection, il y a une dispersion. Et je crois qu'il y a un chapitre qui s'appelle « Dispersion d'une collection ».
Tout à fait. Hein.
Et, est-ce que c'est pas désolant, ça, de disperser une collection?
Alors, évidemment, en absolu, ça peut être triste, parce que la collection va changer de main. Mais vous savez que...
C'est pas la collection. Si vous dispersez,
oui.
Vous vendez...
Je disperse.
Il n'y a plus de collection.
Non, je disperse la collection.
Il n'y a plus de collection, en ce
moment. Oui, voilà. Avant de la disperser, elle existe toujours. Donc, il y a cette collection qui est là, bien présente. Que se passe-t-il? Soit les héritiers disent, on conserve la collection, on va conserver l'âme de notre père ou notre grand-père, etc., pour pouvoir dire, voilà, on va continuer son œuvre, etc. Mais souvent, malheureusement, souvent, puis aujourd'hui, de plus en plus, c'est que les héritiers n'ont pas les moyens de conserver ce genre de choses. D'abord, ils n'ont pas la place, ils n'ont pas les moyens... Et puis souvent, malheureusement, ils ne s'entendent pas toujours. Donc certains demandent la dispersion, c'est-à-dire la vente de la collection. Alors, il faut savoir aussi quand même que lorsque, je retiens toujours le terme que vous venez de dire, qui est tout à fait vrai, lorsque nous dispersons la collection, nous avons en face de nous des gens qui vont continuer l'œuvre à leur façon. Mais... suivant si c'est une belle collection, ils savent ce qu'ils achètent. C'est-à-dire, on ne vend pas n'importe quand, n'importe quoi, à n'importe qui. C'est ça qui est très important. Et c'est ce qui me rassure, pour pouvoir répondre. Parce qu'on m'a souvent posé cette question. Est-ce que vous n'êtes pas triste de voir disperser une collection? Si, je pourrais l'être. Mais en face de moi, lorsque je propose ces objets, je vois les gens sourire, je vois les gens... Ils changent de couleur parce qu'ils lèvent la main et puis tout d'un coup, l'objet risque de leur échapper, etc. Et ils reviennent à la charge. Ça, il y a un côté assez extraordinaire. Et puis, ces gens-là, eh bien, je peux vous dire que ils n'ont pas des mains avides, ils ont des mains douces et qui vont prendre l'objet, le regarder, l'admirer, et puis ça sera un objet qui sera un élément supplémentaire pour leur collection à eux.
Vous m'avez demandé tout à l'heure de vous ménager des moments où vous liriez. Alors, vous allez lire.
Oui.
Mais d'abord, dites-nous un mot quand même de cette collection tout à fait étonnante, qui était cette collection de crèches, qui n'étaient pas des crèches anciennes.
Non.
Et vous allez nous expliquer ça. Et comment s'est passée la vente ? Ce n'est pas si bien passé que ça, d'ailleurs.
Non.
Alors, vous pouvez raconter en quelques mots, sans déflorer...
Non,
je ne
vais pas rentrer dans les détails.
Non,
non parce que là, vous pourrez prendre le bouquin, comme ça, vous verrez un
peu
comment ça se passe exactement. Là aussi, c'est le commissaire-priseur dans tous ses états. Rendez-vous compte. Un monsieur vient me voir. Alors, je ne trahis pas de secret professionnel, parce que c'est passé dans tous les journaux de Carcassonne. Alors... Ce monsieur était l'ancien rédacteur en chef de Paris Match. Son épouse, adorable, était ancienne rédactrice de France Inter. Donc des gens bien, des gens charmants, cultivés. Et cet homme, quand il a pris sa retraite, il a tenu à, comment dirais-je, à favoriser sa passion. Et il s'est mis à acheter des crèches. Tellement bien qu'il en avait 600 ou 700 crèches, mais de tous les pays du monde, mais des crèches de belle qualité. Et surtout, il y avait des crèches animées. Des crèches animées qui sont fabriquées en Italie et qui sont composées de 50, 60, 80, 100 personnages. Et ces crèches, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour certains d'entre vous, il y a une crèche qui est venue à Bordeaux, qui s'est installée place de la Comédie. C'était une crèche de Venise. Et c'était lui qui venait là. Et ces crèches, il y avait des automates modernes, etc. C'était quelque chose de merveilleux. Alors, difficulté. Il y avait une difficulté. Le mandataire judiciaire m'avait demandé, je connaissais bien, il m'avait appelé, alors que je sortais de ma juridiction, si je puis dire, de mon territoire plutôt. Et donc j'avais été nommé quand même pour essayer de faire quelque chose, de faire une tentative justement pour essayer de purifier tout. Mais ça a été beaucoup plus compliqué que ça, et je m'en doutais. C'est-à-dire qu'avant de vendre, qu'ai-je fait ? Je suis allé voir tous les collectionneurs de France et de Navarre, certains commissaires-priseurs, comme un commissaire-priseur Le Lièvre à Chartres, qui fait souvent des automates, etc. Mais manque de chance, mes automates, ils n'étaient pas anciens. Ils étaient de fabrication, ils avaient 15 ans, 20 ans, 25 ans, etc. Et il m'avait dit, tu vas te planter, tu vas voir, ça ne va pas marcher. Mais moi, je ne pouvais pas laisser cet homme, ces gens-là, dans la peine. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'ai présenté la collection. Alors, évidemment, TF1, Antenne 2, France 3, la 6, la 5, la 8, la 22, je ne sais plus. J'ai averti le monde entier pour leur dire, voilà ce qui va se passer à Carcassonne. Donc, j'ai annoncé ma vente. Bien évidemment, j'ai vendu une centaine de crèches. Très bien, bon, ça allait. Mais la grande crèche, les 7 ou 8 grandes crèches, il s'est passé la chose suivante, c'est que un client, enfin, entre guillemets, s'approche de moi et me dit, monsieur, moi, je vous offre tant. J'aurais eu un revolver à la hanche, je crois que je sais pas ce que j'aurais fait. Il profitait de la situation. Et alors, qu'ai-je fait ? J'ai fait, d'ailleurs, ce que j'appelle le devoir de désobéissance, parce que je le mets dans mon bouquin, parce que, normalement, on doit vendre au plus offrant. Au monde judiciaire, on doit vendre au plus offrant. Et je lance une offre intéressante. Personne. Au moment du passage, là, j'ai dit, nous vendons cette crèche de Venise, etc., avec le descriptif, on l'avait mis en musique, il y avait des voix de Maustrolini, il y avait des voix d'artistes de cinéma, c'était super bien, c'était un magnifique spectacle. J'annonce le prix, personne. Et je dis, écoutez, mesdames et messieurs, voilà, je vais appliquer mon devoir de désobéissance, je vais retirer, parce que je considère que c'est inadmissible de ne pas trouver un prix suffisant, quand on pense que ça a coûté, etc. Et les gens m'ont applaudi. Ils ont applaudi. Et alors, il y avait le président du tribunal de commerce, je ne vous dirai pas lequel, de la région à l'époque, le mandataire judiciaire, etc., qui ont applaudi aussi. Et qui sont venus me voir pour me remercier. Parce que, en réalité, j'ai donc le propriétaire des crèches, bon, et sa femme, elle m'a sauté au cou pour me dire merci. J'ai dit, écoutez, vous savez ce qu'on a fait ? J'ai dit aux gens. Nous avons tenté quelque chose. Mais maintenant, on sait que cela existe. On a commencé à mettre des prix sur les petites crèches. Et on sait qu'on ne peut pas laisser partir ces crèches magnifiques à un prix trop bas. Et bien m'en a pris quelques mois après. Il a trouvé un acheteur qui a repris tout l'ensemble. Et grâce à cela, cet homme a pu conserver sa maison, ses meubles, et il peut vivre, maintenant il est à Toulouse, une retraite bien agréable. Alors ça, c'est le commissaire-priseur dans tous ses états. Voilà, vous voyez ? Voilà.
Michel.
La joie que l'on peut avoir.
Michel, ce n'est pas le premier livre de Christian Jean Dicazo que vous éditez.
Non.
Mais jusqu'à présent, c'était plutôt des ouvrages de poésie. ou des récits à caractère poétique, des courtes nouvelles. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans ce commissaire-priseur dans tous ses états ?
En ayant donc édité des livres de textes que moi j'aime bien, parce qu'ils sont construits, il y a une chute toujours qui est élégante, qui est inattendue. Je connaissais donc cet humour de Christian Jean Dicazo, et il m'avait raconté plein d'histoires. Et un jour, il me dit, je voudrais que tu m'édites mon expérience, mes aventures, les éléments forts de ma vie. Bon, je lui ai dit oui, parce que nous étions dans une relation amicale et que je pensais que nous allions faire quelque chose d'intéressant. Et je lui ai dit, mais il faut que tu travailles, parce que ce n'est pas quatre ou cinq histoires qui peuvent nourrir un livre. Et il me dit, ah non, tu comprends, j'ai beaucoup de choses à faire, alors là, c'est compliqué pour moi. Je lui ai dit, ah ben non. Et plusieurs fois, il est venu me voir en me disant, voilà, j'ai 10 histoires que je lis, bien sûr. Et je lui ai dit, mais c'est insuffisant, c'est trop court, il faut que tu les complètes, il faut que tu racontes un peu plus le lieu, le moment, le temps qu'il faisait pour que les gens soient plus en situation. Et donc, nous avons une relation, non pas difficile, mais un peu longue, où je faisais que refuser, poliment, son travail en disant, c'est pas suffisant. C'est incomplet, il faut aller plus loin, etc. Finalement, on est arrivé à une somme, à un ensemble qui m'a paru avoir de l'unité et être suffisant pour être édité. J'avais déjà eu ces petits problèmes en tant qu'éditeur, parce que même si on s'y aime bien, des fois, on a des petites querelles amicales, car une fois, il m'avait dit, tu vois, j'ai fait ceci, cela, il voulait que je fasse un livre avec à la fois des pièces de théâtre, à la fois des petites poésies, à la fois des textes. Je lui ai dit non. On fait l'un ou on fait l'autre, on ne va pas mélanger tout ça.
Et donc, terrible,
on était un peu dans ce propos à ce moment-là. Et après, il m'a dit, je souhaiterais compléter cet ouvrage de mes états dont il vient de parler, pour qu'on sache d'où je viens et pourquoi ma vie de commissaire a été faite comme ça, et après ma vie de commissaire, ce qui s'est passé. Alors voilà, on s'est mis d'accord, finalement, pour faire cet ouvrage. Et moi, j'aime beaucoup les histoires qu'il raconte, parce qu'il les raconte un peu comme ces petits textes qu'il fait. C'est-à-dire, il les raconte un peu comme ça, comme si de rien, que c'était naturel. Puis tout d'un coup, pouf, il y a une chute. Il y en a cinq ou six qu'il va peut-être nous lire, car elles sont assez courtes, dans lesquelles il y a des chutes absolument extraordinaires.
Est-ce que vous voulez nous lire
Je peux vous en dire chose. Une petite chute. Hein
petite chute. Petite histoire.
Des petites chutes. Enfin, avant de faire des petites chutes, je voudrais évidemment remercier Michel Pétolétan. On se connaît depuis plusieurs années. On a commencé ensemble. Nous avons commencé à éditer ensemble depuis 2006. Il a édité un ouvrage dans la collection Tram. Avec une préface de Michel Suffren. En fin de compte, je suis très, très bien entouré. D'abord, j'ai Michel Pétolétan qui m'a toujours suivi. On se dispute, il faut voir comment. Ça va pas loin. Ça va pas loin. Non, oui, non, oui. Mais bon, et puis alors quand il me dit non, alors je râle, évidemment. Et puis j'essaye de m'appliquer, mais il a pas tort. il fait son rôle d'éditeur, il le fait bien. Et non seulement il le fait bien, mais en même temps, on choisit les titres aussi. Vous voyez, alors là, des fois, on n'est pas d'accord. On choisit les photos, mais là, des fois, on n'est pas d'accord. Mais on s'arrange à la fin. Donc, c'est un grand moment.
Lis plutôt un texte.
Alors, je lis un texte.
Mais pendant qu'il cherche, si vous avez lu l'ouvrage déjà ou si vous souhaitez le lire, d'abord, c'est un ouvrage qu'on peut lire en quelques minutes et puis revenir dessus, puisque c'est à chaque fois des histoires différentes. Et c'est en même temps, c'est un peu une traduction de notre société, parce qu'il se trouve à des moments toujours cruciaux de la vie de ces personnages qu'il a rencontrés, et à des moments des fois dramatiques, c'est-à-dire la mort d'un parent proche ou d'un ami proche, et la succession qui est à gérer. Il y a une certaine intensité.
On va lire des petits textes gays. Quiproquo. Lors d'une vacation, à mes yeux importante, une foule nombreuse, sage, studieuse, assistait au déroulement et à la dispersion du contenu d'un hôtel particulier. L'annonce avait été faite en ces termes. Tableaux anciens, 17e, 18e et œuvres du 19e siècle et modernes. Meubles et objets de bel ameublement des 18e et 19e siècles, orfèvrerie céramique. Vient la présentation des meubles dits meublants. Le clerc professionnel chargé de l'ordre de vacation, lors de passage, annonce un important salon en noyer mouluré, sculpté et teinté, à dossier plat, côtoir en coups de fouet, pieds galbés, se terminant par des roulettes vert 1880 de style Louis XV, garniture tapisserie au petit point, comprenant quatre fauteuils et un grand canapé. Les enchères rapides se déplacent, se conjuguent. L'adjudication est formulée au profit d'une dame d'un âge certain, très élégante. Celle-ci, profitant d'un silence établi juste après le prononcé du prix, donne de la voix. « Maître, je vous règle en nature ou en espèces ?» Sous les acclamations d'une assistance en délire, je lui réponds, aussi rouge que ses yeux malicieux étaient bleus, sont bleus, « Je crois, madame, qu'il serait plus raisonnable de vous acquitter par chèque. » Le jeune maître était dans tous ses états, surtout que, comme l'a écrit Sacha Guitry, une vieille dame, c'est si joli. Un petit texte très court. Où avais-je la tête ? Un jour, voulant amuser le public aux dépens sans le vouloir peut-être de mon employé de salle, je présentais une statuette en plâtre à 3 francs 6 sous, figurant la victoire de Samothrace, qui fut découverte en 1863 dans une île grecque de la mer Égée qui se trouve actuellement, aujourd'hui, au musée du Louvre. Mais ça, vous le saviez déjà. Je m'attardais sur cette pièce symbolique, m'adressant à mon sympathique manutentionnaire, lui aussi très ancien. Je lui demandais « Mais où est passée la tête ?» Surpris, il me répondit d'une voix faussement angoissée « Je l'ai cherchée toute la matinée. » Et je ne l'ai pas trouvé. Je me demande encore si ce brave garçon n'était pas plus espiègle que moi. Cela m'apprendra.
Michel Pétioletan disait que vous aviez tendance à mêler un peu les genres à faire des livres où il y avait du théâtre, de la poésie, des souvenirs. Bon. Alors, il n'y a pas de théâtre exactement, mais ce qui vous a fait connaître en tant qu'écrivain, ce sont des poèmes. Vous ne pouvez pas vous empêcher de glisser de temps en temps, n'est-ce pas, un poème. Alors tout d'un coup, il y a Trou normand. Alors on s'arrête dans l'évocation des souvenirs et on a un poème que d'ailleurs qu'on connaît déjà parce qu'il vient d'un recueil précédent. Est-ce que c'est la même chose d'écrire le récit de son expérience professionnelle et d'écrire des poèmes? Est-ce que prose et poésie, pour vous, c'est kiff-kiff? Ou bien est-ce que vous êtes plus à l'aise dans la poésie, puisque vous voulez absolument, n'est-ce pas? Il y en a un en ouverture, il y en a un comme ça, en trou normand. Et donc, c'est la même chose ou pas? La prose, la poésie, vous écrivez de la même manière.
C'est à moi que vous posez la question. Oui.
Oui.
C'est la même chose. Pourquoi? Parce que la poésie, bon, soit vous faites des vers dans les cendrins. Moi, je ne sais pas faire. Puis ça m'énerve au plus haut point. J'écris des vers libres, ce qu'on appelle des vers, des écrits en vers libres. Et donc, on appelle ça des poèmes. Vous prenez des petits textes, ça s'appelle des poèmes. Vous prenez des haïkus japonais, ça s'appelle des poèmes. Donc, voilà, pour moi, ces poèmes n'ont pas de rime, ils ont du rythme. S'ils n'ont pas de rime, ils ont du rythme. Et pour moi, c'est pareil. Et je ne suis pas le seul à faire comme ça, d'ailleurs. Il y a souvent des gens qui appellent leurs livres livres de poésie, etc., et qui font comme moi, enfin, qui font de la même façon. Moi, je trouve que c'est plus... Puis alors, en plus, ce que j'aime, c'est ce qui arrive souvent, d'ailleurs, dans certaines soirées, on me demande, c'est de les déclamer. Mais de les déclamer avec des... Comment dirais-je, des soupirs, des silences, une ponctuation, etc. Par exemple, tenez, à partir de quel texte j'ai commencé à écrire ce texte qui est un poème ? Ça s'appelle La plume. Un bruit de papier froissé, une page qui tourne, un mot qui jaillit au bon moment, une tache d'encre qui s'étale, un mot rayé, une phrase longue et bavarde, la plume s'envole, séduisante, fascinante. Elle rencontra un jour un point d'exclamation qui la rendit heureuse, bien aise. Puis au cours d'un texte interminable et laborieux, elle fit la connaissance d'un point d'interrogation qui la rendit craintive. Un soupir, quelques points de suspension. L'attente ne fut pas longue. La plume apostrophée, excitée, grelottante, traça en une seule ligne la réponse qui se termina par un point.
Michel, vous voulez faire un commentaire ?
Oui, la question qui a été posée par Jean-Marie, c'est préfères-tu faire de la poésie ? Te sens-tu mieux quand tu fais de la poésie ? Ou préfères-tu faire de la prose, puisque tu as quand même fait des pièces de théâtre, tu as écrit des textes qui ne sont ni de la poésie, ni des pièces de théâtre. Et là, dans ce livre, en fait, à part le Trou Normand, le reste, c'est des textes. Et toi, quand tu écris, à quel moment tu te sens le mieux pour écrire ou ce qui te préfère ? C'est la question que tu te posais.
Je me sens bien. Je me sens bien quand je fais de la prose, quand je fais un peu de poésie. Je me sens très bien. Et je trouve que le mariage, comme on a fait ici avec ce Trou Normand, il y avait des choses sérieuses qui se passent dans ce livre. Il y a des choses sérieuses. Il y a des anecdotes parfois qui sont difficiles à lire, qui sont parfois difficiles à écouter, et qui sont difficiles à comprendre, non pas à comprendre, mais à imaginer. Et puis de temps en temps, un petit Trou Normand. C'est-à-dire, voilà, pour essayer de changer de rythme.
Enfin, tu n'es pas comme Monsieur Jourdain, quoi.
Encore fallait-il bien le connaître, Monsieur Jourdain.
Est-ce que vous pensez à quoi quand vous parlez d'anecdotes douloureuses, difficiles à évoquer ? Vous pensez à quoi ?
Je pense parfois, lorsque... Bon, les commissaires-priseurs, vous savez, sont chargés de faire des inventaires. Bon, notamment dans le cadre de succession. Et vous arrivez, il y a des successions qui se passent bien, et puis il y en a d'autres qui se passent moins bien, puis il y a des successions extrêmement délicates, difficiles, où le drame s'est abattu sur une famille. Et là, vous êtes là, au milieu des héritiers, au milieu des notaires, des généalogistes, etc. Et vous faites votre travail. Mais faire votre travail, c'est quoi ? C'est vous arriver dans une maison, c'est d'ouvrir les armoires, d'ouvrir les meubles et de comptabiliser ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a à l'intérieur. Vous vous rendez compte ? Il y a des gens qui vous disent, avec juste raison, moi je trouve, mais on ne fait pas ça brutalement. Enfin, chacun a sa méthode. Mais une grand-mère qui est là, qui a perdu son mari, avec qui elle a vécu pendant 60 ans, 70 ans, qui vous dit, mais qui comprend pas, qui dit au notaire, mais attendez, moi je vais pas payer des impôts, tout ça, on l'a acheté, c'est à nous, etc. Enfin, c'est compliqué d'expliquer cela aux personnes qui sont un peu âgées ou qui sont perturbées par la mort de leur conjoint. Et alors, vous leur dites, madame, on peut ouvrir l'armoire pour voir quoi, monsieur ? Pour voir le linge, pour voir... C'est des moments dramatiques, compliqués. Et c'est pour ça que je dis, il y a des instants parfois douloureux. Et je rencontre deux ou trois, c'est quand même... Enfin, voilà, quoi.
Est-ce que, sans ôter au public l'envie d'acheter le livre et de le lire, est-ce qu'on peut revenir sur une ou deux anecdotes, quand même tout à fait savoureuses et pas tragiques, celle-là, encore que. Alors, vous parlez d'ouvrir les armoires. Quelquefois, il faut déplacer une armoire. Ouais. Et quelquefois, on a une surprise derrière l'armoire.
Oui.
Vous pouvez dire un mot de ça.
Très simplement, ça se passe près du parc Bordelais, dans une belle maison. Il y a de beaux meubles.
Pardon de vous couper la parole, mais pourquoi vous dites chez un architecte qui a laissé un nom dans l'histoire de Bordeaux, etc.
Oui.
Je sais même pas si vous ne parlez pas d'architecte utopiste, etc. Pourquoi vous ne le nommez pas?
Parce que
elle est connue, cette maison, n'est-ce pas?
Oui, mais j'ai pas eu envie.
Bon.
Moi, j'ai voulu avoir une certaine
discrétion.
Je crois que c'est un peu normal. Alors. Donc, la maison, belle maison. Et puis, il y avait une énorme armoire. Vous connaissez les armoires bordelaises. Mais celle-là, c'était une armoire à la Botero. Vous savez, une armoire immense, galbée. Elle était magnifique. Et alors, elle était plaquée contre le mur. Et mes quatre déménageurs avaient du mal. Puis alors, je dis, mais allez-y, il faut la tirer. Il ne faut pas la laisser là. Avant de la démonter, on ne peut pas la passer, donc il va falloir la démonter. Mais pour la démonter, il faut la sortir du mur. Et alors, ils sortent l'armoire du mur et on entend un bruit sec. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y en a un qui arrive à se faufiler derrière l'armoire et qui revient avec une sorte de tableau. Vous ne devineriez jamais ce que ça pouvait être. C'était un chat fossilisé. Ce pauvre chat qui... Cette maison était restée fermée pendant des années. Ce pauvre chat, vous savez qu'on dit que les chats, ils aiment toujours la hauteur, ils grimpent partout, etc. Et ce chat était tombé entre l'armoire et le mur. Évidemment, il est resté coincé. Et alors, il a dû mourir dans des conditions dramatiques, parce que vous connaissez les chats, quand ils ont peur, leurs poils sont hérissés comme ça. Et ce chat, les poils étaient hérissés comme ça. C'était une plaque, mais aplatie complètement, et il était complètement fossilisé. C'était vraiment impressionné. Mes déménageurs, c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à m'endormir, parce que mon chat, il faisait le doron, là, vous voyez, vous comprenez ? Voilà. Alors, c'est des petites histoires comme ça qui arrivent, comme ça.
Alors, je voulais simplement dire que quand on écoute Christian nous raconter des histoires, il est à la fois poète, parce que c'est toujours dit avec des mots élégants, et il est à la fois dramaturge, parce qu'il nous met en haleine pour arriver à une chute, et il est à la fois acteur. C'est pour ça qu'il a sans doute réussi dans son beau métier de commissaire-priseur, parce que moi, j'ai assisté à des enchères, des ventes aux enchères, et j'ai adoré voir la façon dont il manipule un peu, quand il a envie qu'un objet, comme il a dit, soit vendu à un certain prix, il traîne un peu, il a le marteau qui tombe pas. Et il le fait avec cette élégance et avec ce vocabulaire qui est toujours enrichi. Et alors, ce drapeau, vous n'en voulez pas de ce drapeau, non, etc. Il n'y a personne qui surenchérit. Voilà, j'adore ça.
Le drapeau tricolore, je venais de terminer une vente, j'étais quai de Bacalan, je termine une vente, je dis, mesdames, messieurs, la vente est terminée, je vous remercie. Et puis, il y a un vieux monsieur qui s'approche de moi, il me dit, maître, vous n'avez pas vendu le drapeau. Je me retourne, je vois le drapeau tricolore qui faisait partie d'ailleurs de la succession. Et je dis non. Alors je prends le drapeau, je lui donne, je dis monsieur, je vous le donne parce qu'on ne vend pas la France. Applaudissements. Alors là, je suis passé. C'était extraordinaire. Un grand moment.
Alors le soir, pas pour vous endormir, mais quand vous avez envie de passer un bon moment, vous lisez le livre de Christian et c'est rempli d'anecdotes comme ça et on sourit. On rit intérieurement.
Mais c'est le but recherché, il faut sourire. On en a bien besoin.
On va donner la parole au public qui a pris la parole d'ailleurs assez spontanément. pour d'éventuelles questions. Mais j'ai parlé des trains, des bateaux. Il y a aussi des ventes de vin. Et alors, bon, vous parlez pas mal de moutons Rothschild, mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette chose étonnante qui est la découverte de cette épave qui s'appelle la Marie-Thérèse et dont vous avez vendu le contenu. Qu'est-ce que c'était la Marie-Thérèse ?
Alors, je sais pas si vous en souvenez, certains s'en souviennent, c'est un bateau qui avait été construit dans les chantiers de Lormont. Et ce bateau, à la fin du XIXe siècle, a été attaqué par des pirates. Et il s'est échoué, il a coulé. Et ce bateau, transportait des vins et transportait des faïences fines de vieillards. Alors, c'était des faïences fines, mais pas des faïences décorées. C'était pour le corps expéditionnaire à l'époque. Et puis des vins. Et un jour, là, il y a une compagnie suisse qui vient me voir en me disant, voilà, qui me raconte l'histoire de ce Marie-Thérèse construit dans les chantiers de Lormont, donc évidemment bordelais. Et ils me disent, voilà, on a découvert l'épave, on a découvert des objets, ils sont à 20 mètres dans la mer. Donc, on est en train de récupérer tout ça. Donc, ils ont récupéré ces vins, récupéré des faïences, récupéré des encriers, etc. Et nous avons fait une vente aux enchères d'une partie de la cargaison à la Cité mondiale du vin à l'époque, construite par Michel Pétolétan, en se suédant en passant. Hein. Et on avait fait une vente très intéressante, superbe, et voilà, donc ça a été un grand moment, mais ce qui est intéressant, justement, pour revenir un petit peu à ce que disait tout à l'heure Jean-Marie Plane, quand il disait « Est-ce que vous n'êtes pas triste lorsque vous vous dispersez ?» Alors là, vous voyez, ce qu'on a fait, on n'a pas dispersé cette cargaison comme ça. On a interpellé, entre guillemets, les héritiers, on a retrouvé les héritiers des passagers de l'époque qui étaient bordelais. Et on a retrouvé des lettres. On a fait un petit livre où on a reproduit les objets et on a rapproché ces objets des objets de faïence qu'on a trouvés à Bordeaux, etc. Enfin, on a fait tout un cinéma. Mais c'était très important et ça a plu beaucoup aux acheteurs parce qu'ils sont partis non seulement avec des objets, mais en même temps avec un document qui rappelait un petit peu tout ce qui se passait, mais qui en même temps rappelait l'histoire de ceux qui avaient vécu à Bordeaux, etc. On a trouvé une grande famille et puis on a trouvé des vins qui étaient connus, et on a trouvé des champagnes. Et je me souviens, on a fait une dégustation, on ouvrait les bouteilles de champagne, ça faisait pouf! Pouf, c'était assez extraordinaire. Voilà, enfin, ce sont des événements où le commissaire-priseur est encore une fois dans tous ses états.
Il y avait du Gruau-la-Rose, notamment.
Il y avait le château Gruau-la-Rose. Oui. Gruau.
Oui, Gruau-la-Rose.
Mais qui est devenu après. Pardon.
Gruau. Ou la Rose, tout simplement. C'est...
Je sais pas.
Si, vous dites que c'est la Rose.
Je devrais le savoir. Oui.
Mais alors, ce vin, quelqu'un l'a goûté.
Oui. Alors. C'était Monsieur Amillon, expert en tapis, qui a voulu les goûter. Et après, il m'a avoué qu'il avait été malade toute la nuit. Ça lui apprendra d'être gourmand. Je voudrais remercier Jean-Marie Plane, parce que avec Jean-Marie Plane, on est un petit peu complices. D'abord, nous nous retrouvons à l'Académie des sciences belles-lettres et arts de Bordeaux. Et ensuite, elle a eu toujours la gentillesse, parce que Dieu sait que c'est un monsieur qui, son dernier candidat, si je peux dire, c'était Jean d'Ormesson. Et donc, il me fait quand même l'honneur de se déplacer et de venir faire ce qu'on appelle le modérateur. Et puis, il a fait ça plusieurs fois. Donc, je tenais à le remercier vivement. Et je ne sais pas si vous avez lu son dernier article sur Sud-Ouest Dimanche sur Jean d'Ormesson. Voilà, un ouvrage posthume époustouflant et qui récapitule rien que ça l'histoire du mandat. Pourquoi j'aime son écriture ? Il a, Michel Petoletan, qui est écrivain, a une écriture très fine, très, très ciselée, très apaisante. Et puis tout d'un coup...
Ah ben Michel est écrivain aussi.
Michel est écrivain. Non, je veux dire Jean-Marie Plane. Donc, il a une écriture tranquille, mais tout d'un coup, hop, ça explose. Et alors là, on s'emballe. Ce livre exaltant qui donne le tournis dont la virtuosité narrative épate, semblantée par la chute. Vous voyez, il emploie des termes qui sont forts, des qualificatifs qui sont très forts. Et ça, c'est un véritable bonheur. Il est chroniqueur dans Sud-Ouest Dimanche. Hein. Il y a un cahier dans Sud-Ouest Dimanche où on parle des livres, des bouquins, machin truc, etc. Et Jean-Michel est souvent là. Donc, il a fait cet article, Jean-Marie Plane, décidément, a écrit sur ce livre. Et moi, je vis toujours de Jean d'Ormesson. Voilà. Donc, voilà, c'était mon petit clin d'œil que je voulais faire. Et en même temps, puisque vous avez des questions à poser, mais réfléchissez, oui. Je remercie dans mon livre les trois M. Je remercie Michel Petoletan. Je remercie Michel Suffran, qui n'a pas pu venir et qui s'excuse, et Michel Ituria. Alors, mon ami Michel Ituria, ici présent, qui est un... Je ne sais pas si vous avez... Sud-Ouest, tous les samedis, il y a Mag. Et à l'avant-dernière page, il y a un dessin d'Ituria. Et alors là, le dernier dessin d'Ituria est extraordinaire. On voit... une montagne avec des skieurs qui parlent très très fort. Et sous la voûte de la neige, sous la voûte des roches, il y a un ours, la maman ours avec ses deux petits, et puis le père ours qui, avec un gros bâton, pour dire à ses skieurs d'arrêter. Ça, c'est un grand moment. Voilà Michel. Et parce qu'avec Michel, on se suit. Avec les trois Michel, on se suit depuis très, très, très longtemps. Voilà. Merci, Jean-Marie, de cette...
Merci. Merci à vous deux. Merci.
Précision.